C'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les versets 36 à 38, que je lirai le texte de ce jour, le texte de la présentation de Jésus au Temple. Pardon, je lirai à partir du verset 22. Excusez-moi. Mais je m'arrêterai tout à l'heure sur les versets 36 à 38. Après cela, le moment arrive où Marie et Joseph doivent faire la cérémonie de purification, comme la loi de Moïse le demande. Alors ils amènent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, la loi du Seigneur dit « Il faut donner au Seigneur le premier garçon né dans une famille. » Marie et Joseph offrent aussi le sacrifice que la loi du Seigneur demande, deux tourterelles ou deux jeunes pigeons. À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. Cet homme est juste et fidèle à Dieu, et il attend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint est avec Siméon, et il lui avait dit à l'avance, « Tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur Dieu. » Alors Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Il remercie Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix, comme tu l'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l'as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. » C'est la gloire de ton peuple d'Israël. » Le père et la mère de l'enfant sont étonnés de ce que Siméon dit de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « À cause de ton enfant, beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. Il sera un signe de Dieu, mais les gens le rejetteront. Ainsi, on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes. » Et toi, Marie, la souffrance te transpercera comme une lance. Il y a aussi une femme, prophète, qui s'appelle Anne. C'est la fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle est très vieille. Elle a vécu avec son mari pendant 7 ans, puis elle est devenue veuve. Elle a 84 ans. Anne ne quitte pas le temple et elle sert Dieu nuit et jour en jeûnant et en priant. Elle est là, en même temps que Siméon, et se met à remercier Dieu. Elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jérusalem. Éclaire pour nous, Seigneur, la lecture de ta parole. Renouvelle ces mots de la Bible que nous connaissons tellement bien. Renouvelle-les, qu'ils nous apparaissent comme de véritables nouveautés aujourd'hui. Amen. Souvent, on ne parle d'Anne que comme une sorte de pâle reflet de Siméon, comme son miroir féminin, en quelque sorte. Il faut dire qu'il est plus facile de parler de Siméon, puisque les paroles de Siméon nous sont rapportées, alors que nous n'avons aucune parole d'Anne. Il nous est bien dit qu'elle parlait pour prophétiser, pour louer Dieu, prier, parler de Jésus, mais il ne nous est donné aucun contenu de ses paroles. Il est donc plus difficile de parler d'elle. Heureusement, nous avons quelques éléments, nous avons son exemple. Si on ne sait pas ce qu'elle disait, on sait au moins un petit peu ce qu'elle faisait. Anne est un personnage plus étonnant que ce qu'il y paraît. Si on essaie de dépasser la simple leçon de morale pour entrer dans la profondeur théologique de ce texte, on découvre que tout en finesse, l'attitude d'Anne nous dit beaucoup de choses concernant le Messie. Anne se situe exactement à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament. Au point de passage de l'ancienne alliance vers la nouvelle. Elle atteste dans un même mouvement de tout le poids de la tradition juive et d'une grande liberté par rapport à cette tradition. Par son âge avancé, qui est spécifié, elle témoigne d'un lien très fort avec le passé. C'est très rare dans le Nouveau Testament, je crois que c'est le seul cas d'ailleurs, qu'un âge soit donné. Et lorsque c'est le cas, donc là, ça ne peut pas être sans signification. Et son âge, alors 84 ans, peut-être aujourd'hui, ça ne paraît pas très vieux à tout le monde, mais à l'époque, ça paraissait, c'était très vieux. Voilà. Son âge, donc, l'enracine dans l'Ancien Testament. Elle est le témoin du Christ le plus profondément enraciné dans l'Ancienne Alliance. Elle appartient à l'avant Jésus. Et j'aurais presque envie d'écrire l'avant avec ENT. Hein. Et elle assume complètement cette histoire. Elle ne la renie absolument pas. Elle ne rejette pas sa tradition. Elle l'assume complètement en y participant. Et elle assume complètement cette spiritualité juive de son peuple. La preuve, c'est qu'elle est au temple pour prier et jeûner, et qu'elle est reconnue, semble-t-il, par tout le monde comme prophétesse, c'est-à-dire comme quelqu'un qui parle de la part de Dieu. La dernière des prophètes de l'Ancien Testament. Il y a après elle, c'est Jésus, donc c'est vraiment la dernière des prophètes de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Elle apparaît dans le texte biblique juste après que les parents de Jésus aient satisfait à toutes les exigences de la loi juive concernant un enfant nouveau-né, comme pour dire « c'est bien, vous avez eu raison d'inscrire cet enfant dans l'histoire et la religion de son peuple ». Ceci dit, ce serait une erreur, je crois, de s'en arrêter là et de ne voir dans ce passage que l'application et la valorisation de la religion de l'Ancien Testament et l'inscription de Jésus dans sa tradition. Cela nous est dit, et il est important de le souligner, c'est vrai, mais le texte va plus loin. Et en effet, il nous est dit aussi qu'Anne séjournait au temple nuit et jour. Chaque mot a son importance, car la nuit, les femmes normalement, n'était pas admise dans l'enceinte du temple. Elle devait toutes sortir avant le soir. Seuls des hommes pouvaient y rester la nuit. Anne enfreignait donc la loi et la tradition en agissant de cette manière. Elle témoignait ainsi d'une liberté déjà nouvelle. Peut-être à cause de son grand âge, les gardes fermaient-ils les yeux, je ne sais pas, ou parce qu'elle était reconnue comme prophétesse. Mais en tout cas, elle faisait quelque chose qui était contraire aux habitudes, contraire à la réglementation en vigueur, comme on dirait aujourd'hui. En tout cas, Anne sort du rôle que la société et la religion lui assignaient, et ce faisant, elle est porteuse, elle devient porteuse d'un message absolument central pour son peuple. Et c'est peut-être donc plus par sa vie qu'elle est prophétesse que par ses paroles. Ce qui expliquerait que ces paroles ne nous soient pas rapportées. Ce qui importe, c'est la prophétie qu'elle donnait par sa vie, par l'exemple. Anne transgresse les règles communément admises, car quelque chose de plus important est en train de se jouer. Et c'est là le message qu'elle nous transmet. Le rôle de la femme tel qu'il avait été fixé par la tradition passe au second plan, car le Messie qu'elle attendait est là. Et puisque le Messie est là, alors les règles jusque-là en vigueur n'ont plus de sens. Et s'il est vrai qu'il est porteur de liberté, alors ça doit se voir. À partir du moment où Jésus est là, même nouveau-né, toutes les règles, toutes les lois sont bousculées. Tout le monde a accès au sanctuaire. Même les femmes qui en étaient exclues. Vous savez, ce texte dit un peu la même chose que la purification du temple par Jésus, hein, qui a chassé les marchands du temple pour qu'on puisse pour le rendre à la prière. Ça dit un peu la même chose. Elles peuvent servir Dieu, le célébrer, avoir accès à la parole, Et je répète que ça ne peut pas être sans signification qu'au moment du passage de l'ancienne alliance à la nouvelle, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament soit une femme. Anne semble bien décidée à témoigner de cette réalité. Elle ne se contente pas de pratiquer servilement sa religion. Elle innove, elle réagit à certains de ses aspects et se donne le droit de rompre avec certaines coutumes. Et notons que dans les termes employés pour parler du culte qu'Anne offrait à Dieu, ce sont des termes jamais employés auparavant dans la Bible, et ce n'est pas un hasard. Les mots utilisés, même pour dire la même chose, prier, louer Dieu, etc., sont différents. À théologie nouvelle, il fallait des mots nouveaux. L'ancien était nécessaire, et il n'est pas question de le rejeter ni de le nier, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Et ceux qui veulent faire table rase du passé ne savent pas de quoi ils se privent, et Anne le sait bien, mais il ne peut en aucun cas ce passé servir d'alibi contre la nouveauté et contre la liberté. Ceci dit, le plus important reste encore à dire, c'est que le nom de Anne signifie en hébreu tout simplement la grâce. Et ce n'est pas un hasard. Dès que Jésus est là, même petit enfant, la grâce qui est aussi le libre accès à Dieu pour toutes et tous, a sa place dans le temple, c'est-à-dire dans le lieu religieux par excellence. Et la vraie nouveauté, la nouveauté fondamentale, en fait, elle est là. Et c'est ce dont Anne témoigne. Avec cet enfant, la grâce a sa place au cœur de la piété biblique, au cœur de la spiritualité biblique. Par sa seule présence dans le temple, en s'appelant la grâce, au moment où les parents de Jésus viennent satisfaire aux exigences de la tradition, Anne ouvre à une nouvelle conception du rapport à Dieu, celle que Jésus va s'employer à communiquer tout au long de son ministère. Désormais, la grâce est pour toutes et tous. Au moment où les parents de Jésus viennent accomplir la loi, par la transgression de celle-ci, Anne annonce que cette loi ne peut pas et ne doit pas devenir enfermement. Alors si ce texte nous intéresse aujourd'hui, c'est parce qu'il nous enseigne sur le sens de la mission de Jésus au début de sa vie, mais aussi parce qu'il nous parle de nos propres expériences. D'un côté, nous sommes inscrits dans des traditions religieuses, des habitudes, des traditions spirituelles, même et surtout si nous n'en sommes pas conscients d'ailleurs. Ce ne sont pas toujours ceux qui revendiquent le plus la tradition qui en ont le plus. Généralement, ce sont d'ailleurs ceux qui disent ne pas en avoir qui en ont le plus. Et notre Église est aussi inscrite dans une tradition, dans une histoire. Elle était là longtemps avant nous. Elle a sa manière de vivre et de témoigner de sa foi. Comme Anne, elle est enracinée dans un passé très riche sur lequel nous n'avons plus de prise. On ne peut pas le changer, il est ce qu'il est. D'un autre côté, nous sommes tout à fait conscients que nous ne pouvons pas en rester là, ou alors que nous allons en mourir, et qu'il est nécessaire que souffle sur cette Église inscrite dans une tradition un vent nouveau. Notre Église ne deviendra pas ce qu'elle était dans le passé, le passé ne revient jamais, et Anne, à aucun moment, n'essaie de faire rentrer Jésus et sa famille dans le passé, mais cette Église a certainement un avenir à construire. L'histoire d'Anne nous ouvre peut-être plus que beaucoup d'autres, en tout cas beaucoup d'autres textes de la Bible, sur un avenir différent, fait de la nouveauté qu'apporte la grâce et la liberté. Cette nouveauté transgresse toutes les limites de l'ancien, sans rejeter celui-ci, y compris quand cet ancien n'est pas bien vieux, Et vous savez qu'il y a des églises qui n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour instituer des traditions et des systèmes très aliénants pour les paroissiens. C'est pas forcément la durée qui fait grand-chose. On connaît des églises qui, au bout de quelques années, ont déjà institué des systèmes de pensée, des traditions immuables, et que même l'Évangile ne peut pas remettre en cause. À la charnière donc entre l'Ancien et le Nouveau Testament, la figure d'Anne témoigne pour nous de la nouveauté que le Christ est venu apporter dans notre monde et dans nos vies. Elle ouvre pour nous le chemin de l'Évangile, d'une compréhension en tout cas renouvelée, nouvelle de l'Évangile. Elle peut nous entraîner à sa suite si nous acceptons tout simplement de cheminer un peu avec elle. Amen.